Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Journée mondiale ce vendredi contre les violences faites aux femmes. En Italie, cela se traduit par des cortèges et des manifestations sous la couleur rouge. Une écharpe, une paire d'escarpins, peu importe l'accessoire, c'est la couleur qui compte. Le rouge sang, pour ne pas oublier les femmes mortes depuis le début de l'année en Italie, victimes de violences. Cécile Debarge.
Comment parler de violences faites aux femmes sans pouvoir les quantifier avec précision? C'est l'un des problèmes en Italie, l'absence de statistiques officielles sur la question. Pourtant, le problème est réel. Depuis le début de l'année, les associations impliquées contre les violences faites aux femmes recensent au moins 102 meurtres et plus de 2800 depuis l'an 2000. L'étude qu'a menée l'une de ces associations décortique ce bilan. L'âge moyen des victimes est de 50 ans et près de 76% d'entre elles sont tuées dans le cadre familial, dans l'écrasante majorité des cas par leur compagnon ou leur ancien compagnon. C'est un vrai problème social, martèlent ces associations, sans réellement réussir à trouver d'écho dans les plus hautes sphères décisionnelles. Car à l'occasion de cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, les centres anti-violence répartis sur tout le territoire italien rappelleront que, faute de subventions, leur existence est directement menacée. Fin juin, un centre SOS Femmes a fermé à Rome, laissant 300 femmes en parcours de réinsertion livrées à elles-mêmes. Au total, ce sont près de 16 000 femmes qui se rendent dans ces centres chaque année. On considère qu'en Italie, une femme sur trois est victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
Et ce samedi, une grande manifestation nationale aura lieu à Rome, la capitale, relayée par un clip glamour. Les chiffres sont effarants. 88 millions de tonnes de nourriture jetées chaque année en Europe, 2800 kilos par seconde ou encore 273 kilos par an et par habitant. En moyenne, en fait, 20% de la nourriture que nous achetons se retrouve dans une poubelle, parfois même sans avoir été déballée. Alors depuis plusieurs années, le Danemark a lancé la chasse au gaspille grâce à des citoyens militants et aussi plus récemment grâce à l'ouverture d'un supermarché qui ne vend que des aliments destinés à la poubelle. Et c'est le reportage à Copenhague de Frédéric Lebel.
Nous sommes aujourd'hui dans un des magasins de Coop, la plus grande chaîne de supermarchés au Danemark. Ils ont maintenant un bac avec des prix discount pour la nourriture qui est proche de la date limite. Avant, ça finissait à la poubelle. Mais aujourd'hui, vous avez par exemple ce bon morceau de bœuf. La date limite de vente, c'est demain. Alors, il est vendu à moins 70%. C'est de la bonne viande. Imaginez, ça, c'était une vache, on l'a élevée, c'est pas pour la mettre à la poubelle. On a une responsabilité, on doit manger cette nourriture plutôt que la jeter.
Voilà déjà 8 ans que Céline Ayoul a lancé sur Facebook son mouvement Stop Wasting Food, arrêter de gâcher la nourriture, un militantisme que cette designer graphique a puisé dans son histoire, celle d'une petite fille immigrée russe.
Je suis arrivée au Danemark il y a 23 ans, mais quand je revenais à Moscou, en Russie, je voyais tous les problèmes d'approvisionnement. Les supermarchés étaient vides. Ma grand-mère ne gâchait rien. De retour au Danemark, j'étais toujours surprise par la quantité de nourriture disponible et la quantité qu'on jetait.
Ces postes réguliers atteignent désormais 500 000 personnes. Il faut dire que la jeune femme a le sens du marketing et de la formule quand elle veut promouvoir la consommation raisonnable.
Vous pouvez économiser de l'argent, du temps et sauver la planète.
Vêtue de son tablier de cuisinière pour l'occasion, elle nous emmène à la découverte de chaque rayon. À chaque fois, elle a une recette pour éviter de gâcher.
Il y a beaucoup de pièges qui nous conduisent à gaspiller. Vous savez ce que c'est, les ornies ?
Do you know what a UFO is?
Ce ne sont pas des soucoupes volantes, non, ce sont des objets réfrigérés non identifiés. Ils vivent dans votre congélateur, mais vous les avez oubliés. Et quand vous les découvrez, vous ne savez pas ce que c'est et vous les jetez.
Depuis, Célina a par exemple instauré tous les mois un réflexe, une journée bilan réfrigérateur pour cuisiner cet objet congelé non identifié qui risque de terminer à la décharge. En 5 ans, le gaspillage alimentaire a baissé de 25% au Danemark, y compris grâce à ses campagnes d'information. La révolution anti-gaspi se joue aussi à Copenhague dans un autre supermarché, le tout nouveau WeFood. Drôle de concept pour une enseigne, on y vend des produits périmés. Enfin, pas tout à fait, car sur les étiquettes, il faut savoir distinguer la date limite d'utilisation, impérative pour tous les produits frais, et le fameux à consommer de préférence avant. Ici, aucune interdiction. On peut consommer le produit parfois plusieurs années après. Il sera juste peut-être un peu moins croustillant ou fort en goût. Basel Medan est le manager de ce supermarché lancé par l'association caritative Danish Church Aid. Dans son magasin, beaucoup de produits viennent en fait des aberrations d'une industrie agroalimentaire en sur-régime.
Par exemple, ce chocolat, on peut lire sur la boîte qu'ils fondent dans de l'eau chaude. Mais il y a eu un problème lors de la fabrication et en fait, il faut le faire fondre au micro-ondes. C'est juste un problème de packaging. Le chocolat est très bon, c'est du bio, c'est juste qu'il y a une erreur. Et puis là, c'est de la bière, une très bonne bière allemande, mais l'importateur a fait faillite.
Toutes les semaines, des bénévoles en camionnette vont aussi collecter auprès des supermarchés traditionnels des produits frais invendus. Et puis, il y a aussi les dons spontanés. WeFood n'a pas de problème pour s'approvisionner, bien au contraire.
J'ai vraiment été très surpris. Avant que le projet démarre, je m'attendais à récupérer des quantités, je dirais, familiales. 1 ou 2 kilos de bananes ou de pain. Mais en réalité, on nous propose des quantités énormes. Plusieurs tonnes de pain, plusieurs tonnes de pommes de terre. Il y a même une fois où on a reçu 10 tonnes de carottes d'un seul coup.
Pour stocker tous ces produits, WeFood dispose d'un hangar réfrigéré. Pour les écouler, 2 nouvelles enseignes vont aussi ouvrir d'ici l'été 2017. Avec les bénéfices, l'organisation caritative finance des projets de lutte contre la faim en Afrique, ce qui donne toute sa cohérence au projet. Dans ce quartier populaire de Copenhague, les clients sont surtout des étudiants et des retraités à la recherche de bonnes affaires. Il y a aussi Jenny, mère de famille nombreuse.
C'est très cher la nourriture au Danemark, surtout pour une famille avec 5 enfants. Alors je vais voir si je peux économiser un peu.
Jenny n'est pas une militante écologiste, mais elle applaudit à cette démarche concrète.
Because of climate change, food waste.
À cause du changement climatique, la lutte contre le gaspillage va être beaucoup plus populaire auprès des jeunes parce que pour ma génération, on a été élevé à une époque où c'était tu achètes et tu jettes, tu achètes et tu jettes. Mais ça ne fonctionne plus. Ici, c'est très bien, c'est du concret, c'est pas seulement du blabla sur le changement climatique. Je suis vraiment contente parce que les gens qui ont créé ce supermarché font vraiment quelque chose contre le gaspillage alimentaire.
Son panier est loin d'être plein, impossible de faire tous ses achats au WeFood. Les arrivages sont parfois capricieux, mais c'est sûr, quand elle fera le reste de ses courses dans son supermarché habituel, elle réfléchira à 2 fois en remplissant son caddie.
Et après le Danemark, côté positif, nous voilà plongés dans un scandale. Le parti d'extrême droite Dansk Folkeparti est soupçonné d'avoir détourné des subventions européennes. Une révélation bien embarrassante pour DF qui s'est toujours présenté comme un parti anti-système et donc exempt des travers dénoncés chez les autres. L'homme par qui le scandale est arrivé est un eurodéputé. Anne-Françoise Hiver nous appelle de Copenhague.
Un eurodéputé est un des membres de la direction du Dansk Folkeparti, DF, en tout cas jusqu'à ce qu'il en soit expulsé fin octobre. À 36 ans, Morten Messerschmidt était un des grands espoirs de son parti. En 2014, lors des élections européennes, plus de 400 000 Danois avaient coché son nom sur les listes électorales, du jamais vu dans un pays de 5,5 millions d'habitants. Mais le Golden Boy s'est fait prendre la main dans le sac. 30 ans que son parti, anti-immigration et eurosceptique, dénonce la fraude aux subventions européennes. Messerschmidt en a même fait un livre. Or voilà, les médias danois ont découvert que l'impression de l'ouvrage aurait justement été financée illégalement par des fonds européens. L'incident ne serait pas isolé. Le Parlement européen réclame 400 000 euros à DF. De l'argent versé par Bruxelles à 2 organismes eurosceptiques où siégeait Messerschmidt, le mouvement et la Fondation pour l'Europe des libertés et de la démocratie. Le Danois y aurait puisé des fonds à plusieurs reprises, en 2015, pour financer la campagne législative de son parti. Quelques mois plus tard, lors du référendum sur le renforcement de l'intégration européenne du Danemark, un vote remporté par DF et les partisans du non, L'Office européen de lutte antifraude a ouvert une enquête. Les populistes ont annoncé qu'ils avaient remboursé la totalité des fonds, une façon de faire taire les critiques. Mais les dommages sont là. Le parti qui avait remporté 26% des voix aux européennes de 2014, 21% aux législatives l'année suivante, est tombé à 14,3% des intentions de vote, la crise la plus sérieuse de son histoire.
C'est ici que le génie humain a commencé la conquête hardie de l'espace.
Un homme, un russe, vient d'être envoyé dans l'espace et est revenu sur Terre. Qu'en pensez-vous ?
Eh bien, je trouve ça formidable. C'est la course au bonheur et vive le progrès.
Ben, c'est bien, mais je voudrais que la France en fasse autant.
Et oui, hein, c'est un lieu mythique pour tous les amoureux de l'espace. Baïkonour qui nous ramène immédiatement au Cosmodrome, au Spoutnik, à Youri Gagarin. Et aujourd'hui, les astronautes qui s'envolent pour la Station Spatiale Internationale. Tous ont décollé de cette base russe. Il y a une semaine, c'était au tour du Français Thomas Pesquet d'embarquer dans une fusée Soyouz. Et malgré toutes ces missions, la ville de Baïkonour, elle meurt à petit feu. Enclave russe dans la République du Kazakhstan, elle se délabre et ses habitants la quittent. Simon Rosé s'est promené dans la ville.
Il y a un adage à Baïkonour, on ne quitte la ville qu'en avion ou en fusée. Pour rejoindre cette cité perdue au sud du Kazakhstan, au milieu des steppes de la faim, l'avion, c'est quand même plus simple. Marcher dans Baïkonour, c'est comme faire un bond dans le passé. La neige tombe sur les appartements communautaires, les bâtiments sont défraîchis. En 2016, l'URSS semble toujours debout. La ville et son cosmodrome ont été construits en 1955 par l'armée soviétique. Depuis, pas grand-chose n'a changé. L'astronaute Jean-Pierre Aigneret connaît bien les lieux. Il a décollé deux fois depuis le cosmodrome.
C'est vrai qu'il a gardé un petit peu... Il est dans son jus, on va dire. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on voit des installations qui sont un peu rouillées, des bétons qui sont un peu bruts de fonderie. Mais tout ça, finalement, ça marche. Hein. Et c'est une leçon aussi à... d'humilité et aussi de rationalité. Il ne faut pas être émotionnel. C'est pas parce qu'on a un design flambant neuf, merveilleux, qu'on va forcément être plus performant. Donc ici, c'est un lieu d'histoire.
Une histoire qui doit beaucoup à un homme et à ce qu'il a fait le 12 avril 1961.
Yuri Gagarin.
Le premier homme dans l'espace est célébré dans tout Baïkonour. À tous les coins de rue, des portraits à son effigie, des statues géantes de lui, les bras levés. Galina Milkova est la directrice adjointe du musée de la ville.
Cette statue est orientée vers l'est et tous les ans, au printemps, en avril, si vous vous tenez derrière elle, vous pouvez voir le soleil se lever entre les mains du cosmonaute. À chaque fois qu'un équipage décolle, ses membres viennent ici avant et les habitants de Baïkonour peuvent les voir, leur donner des fleurs. Parfois, il y a des écoliers qui leur récitent des poèmes. C'est comme un jour férié pour les habitants de la ville.
La grande histoire est présente partout. Dans ce parc, une réplique de la fusée Soyouz. Ici, une statue de Korolev, le père du programme spatial russe. Baïkonour doit tout à son cosmodrome. Il emploie 10 000 des 70 000 habitants et les autres vivent de son économie. Mais depuis les années fastes, la ville a perdu de sa superbe. Le démantèlement de l'URSS a fait de Baïkonour une enclave russe perdue au milieu du Kazakhstan. Pour s'en rendre compte, le marché de la ville est un passage obligé. Sur les étals, des fruits et légumes côtoient les gants en poils de chameau pour se protéger contre le froid intense de l'hiver. Ici, personne ne parle russe et encore moins anglais.
Откуда? Италии?
Français.
Français? Français. Беда. Platini.
Au moins, il y a toujours le foot, Zidane et Platini pour rapprocher les peuples. Mais quand on mentionne le cosmodrome, Gagarine ou Spoutnik, on ne récolte au mieux qu'un haussement d'épaule. Le spatial n'intéresse pas grand monde, surtout parmi la population kazakh qui compose 60% des habitants de Baïkonour. Galina Milkova.
Aujourd'hui, les enfants ne rêvent plus. Il y a beaucoup d'écoliers qui visitent notre musée. On leur parle du métier de cosmonaute, de leur vie dans l'espace, pour que ces enfants se rendent compte à quoi ça ressemble. Mais même malgré ça, quand on leur demande s'ils veulent devenir cosmonaute plus tard, c'est très rare qu'un enfant réponde oui. De nos jours, les enfants rêvent de faire du business, de faire un métier qui rapporte beaucoup d'argent, et surtout en travaillant moins.
Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une grosse dizaine de lancements de fusées par an au cosmodrome. Dans les années 80, il y en avait plus de 100. Baïkonour se meurt petit à petit. La ville a perdu 30 000 habitants en une dizaine d'années. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Pour ne plus dépendre du Kazakhstan, la Russie construit un nouveau cosmodrome sur son sol, Vostochny, et compte abandonner Baïkonour au vent de la steppe.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Et aujourd'hui, vous avez été séduit par le romantisme de deux artistes portugais et australiens qui se sont bien trouvés.
C'est l'histoire d'une jolie rencontre que nous raconte aujourd'hui l'album Life is Long, celle du compositeur portugais Rodrigo Leao et du chanteur australien Scott Matthew. Le premier fut l'une des grandes figures du groupe Madre Deus, au sein duquel il a déjà multiplié les collaborations avec des artistes pop anglo-saxons. Et le second, Scott Matthew, est un auteur-compositeur australien installé à New York, auteur à ce jour de 5 albums romantiques et fiévreux. Les chemins de ces deux musiciens se sont déjà croisés à plusieurs reprises, mais c'est aujourd'hui un album entier que Rodrigo Leao et Scott Matthew nous proposent. Le portugais signe la composition et les orchestrations de cette douzaine de chansons amples et généreuses, écrites et interprétées par son ami australien.
The fallen crow, a thousand deep, we make it easy to defeat, to leave.
Se quitte sur la voix de Rodrigo Leao et ses violons de The Fallen. À la réalisation, il y a eu toute la semaine Françoise Grelot. Bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur RFI.fr et sur notre page Facebook pour toutes les photos, notamment prises par nos reporters. Ne zappez pas dans quelques instants les infos.